Bien, bonjour à tous. Après les rapports entre le syndicat et le syndic, on va essayer d'aborder plus précisément les rapports entre le syndicat et le maître d'œuvre. Non, c'est une boutade, bien évidemment. Donc on va essayer de vous parler un petit peu d'un certain nombre de points de vigilance sur des nouvelles mesures qui sont arrivées récemment, hein, qui sont finalement le DTG, le plan de travaux, la rénovation énergétique, beaucoup de choses dont on parle tous les jours, mais dont on s'aperçoit finalement que les syndicats ne sont pas complètement au courant, puisque quand on va aborder l'un des trois, on va s'apercevoir qu'effectivement, ils n'ont pas complètement assimilé ce que c'est. Alors c'est un peu normal, puisque nous sommes les sapiteurs, les sachants, et que le maître d'ouvrage, les syndicats, lui, il s'entoure de professionnels. Mais la moindre des choses, c'est pour ces professionnels d'expliquer ce vers quoi nous allons. Donc, on a effectivement, on va vous parler donc sous deux aspects, donc avec ma confrère, des DTG, des PPT, la rénovation énergétique et des points de vigilance. Donc, on va pas parler de la forme de ces documents. Vous avez tout un tas de gens qui vont vous en parler ici. On va plutôt vous parler par rapport à notre expérience, par rapport à notre vécu, par rapport au vécu d'Angela, les points sur lesquels vous devez absolument insister en tant que syndicat et en tant que conseil syndical. Voilà. On va d'abord se présenter. Je vais présenter Angela. Tu peux peut-être te présenter.
Alors, oui. Angela Tandura, je suis architecte et comme Eric, je suis membre de la compagnie des architectes des copropriétés. Donc, disons que nos services s'adressent exclusivement ou presque exclusivement à la rénovation énergétique. Et voilà, ça c'est, disons, l'essentiel.
Merci Angela, tu as tout dit. Merci, effectivement. On travaille en fait au sein de la compagnie sur des immeubles qui vont du 18e siècle hein, jusqu'au décennal, aux fins de décennal pour lesquelles on nous appelle. Donc on a quand même une compétence relativement élargie qui va du travail sur le très ancien au travail sur la rénovation énergétique, en passant bien évidemment par les DTG qui sont des diagnostics. Alors, je voulais simplement faire un retour en arrière un petit peu pour dire qu'avant, les choses étaient simples. Hein. On faisait un ravalement tous les 30 à 40 ans. On avait une grande chance d'acheter un logement et d'en partir sans avoir fait un centime de travaux. La vie était belle. Il n'y avait pas beaucoup de règles, de normes. Tout ça avançait bon an, mal an. On annonçait un ravalement. On le plaçait d'année en année. Puis au bout de 3 ans, il était voté. Les chaudières étaient indestructibles. Hein. Le flou était bon marché. Ma foi, tout ça tenait la route et on se posait pas beaucoup de questions quand on était copropriétaire et syndic. Et puis, à partir de là, il y a un certain nombre de réglementations qui sont arrivées. La réglementation thermique, on a vu le jour, 2005, 2012, 2020, la dernière, qui est particulièrement complexe, hein, qui d'ailleurs prend chaque matériau en fonction de son cycle de vie. Donc on arrive vraiment à des réglementations thermiques qui sont très complexes, qui sont sur le neuf, la 2020, mais qui bientôt sont appliquées sur l'ancien. Il y a eu effectivement des accidents sur les ascenseurs, donc on a obligé la rénovation des ascenseurs. Petit aparté, les copropriétés n'ont aucune obligation de mise aux normes, à l'exception des ascenseurs, puisqu'il y a eu des accidents et c'est du pénal. C'est important de le dire, hein, il n'y a aucune obligation. Les lois sont les normes PMR, qui sont devenues un droit, malgré tout. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un chez vous qui vous exige une rampe, effectivement, dans une copropriété, eh bien, il peut tout à fait l'obtenir, puisque c'est devenu un droit. La tenue en plomb, éventuellement, dans les canalisations. Les immeubles ont vieilli. Les immeubles des années 70, maintenant, ils ont 50, 60 ans. Donc, il est temps de les bouger un petit peu. Et puis, il y a eu, effectivement, malheureusement, des actualités d'effondrement sur des immeubles de bailleurs où on a bien souligné que aucun travaux n'était voté, puisque finalement, d'année en année et d'année en âgée, l'immeuble était toujours là. D'ailleurs, je dirais avec humour que je ne mets jamais le mot urgence dans mes rapports en copropriété, parce que 2 ans plus tard, on me dit, M. Vernat, c'était urgent, c'est toujours là, effectivement. Donc, on parle plutôt de prise de risque que d'urgence. Voilà. Donc, peu à peu, c'est imposé l'idée de faire réaliser par des professionnels un état de chaque copropriété assorti de recommandations, puis de scénarios. Alors, il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées, notamment par l'ARC, le diagnostic, les diagnostics, les BIC, bilan initial de copropriété, merci, l'audit énergétique et puis le DTG qui a été mis en avant par l'Agence parisienne du climat. Depuis 2017, un fonds travaux doit être mis en place, 5% des charges, et à partir de 2025, un PPT, plan pluriannuel de travaux, devra être établie et votée. Voilà. Alors pourquoi, pourquoi l'idée d'un PPT? Tout simplement parce que, et moi je le vois aux âgés, les copropriétaires se posent des questions. Pourquoi on met de l'argent de côté? Par rapport à quoi? 5% des charges, ça représente pas grand-chose. L'intérêt de voter un plan de travaux, c'est effectivement de mettre de l'argent de côté par rapport à ce plan de travaux. Hein, on voit bien l'intérêt du fonds de travaux par rapport à un plan de travaux. Si on décide de faire un ravalement dans 10 ans, eh bien on s'arrange pour mettre assez d'argent pour que dans 10 ans, il y ait très peu d'ajouts financiers à faire. On reparlera du PPT et Angela en parlera plus précisément. Le DTG. Le DTG, donc, c'est un audit énergétique, c'est un audit diagnostique, c'est un audit architectural, c'est un audit technique, et c'est également un audit sur le vécu des copropriétaires. Alors, quand vous lancez un DTG, soyez très vigilants, demandez à vos professionnels de faire un questionnaire très élargi. C'est le moment où jamais on va pouvoir, effectivement, avec les copropriétaires, un petit peu connaître leurs attentes. Je rappelle malgré tout que en copropriété, le seul moment où on se voit, à part le voisin de la porte d'en face, c'est l'Assemblée Générale. L'Assemblée Générale, c'est pas forcément très drôle. Je sais pas, j'en ai pas vu des drôles, en tout cas. On va dépenser de l'argent, il y a des comptes. Bon, c'est pas là où on va effectivement peut-être avancer dans le fonctionnement de son bien. Donc, le diagnostic technique général, c'est une occasion unique d'expression commune, qui est effectivement souvent rare en copropriété. Ne ratez pas ce moment-là, vous allez vous réunir, sans parler d'argent, sans parler de vote, vous allez vous réunir autour finalement de ce qui peut être un projet commun. Je cite plusieurs exemples, de plus en plus dans les diagnostics, au travers des questionnaires, les gens demandent des abris vélos, demandent des prises pour les vélos électriques. J'ai actuellement une copropriété qui m'a demandé d'aménager la terrasse au sixième étage, pour les enfants, parce qu'ils n'ont pas d'espace extérieur. Donc on voit les mamans nous ont demandé d'étudier ça par la suite, comme un projet, effectivement, pour vivre sa copropriété d'une manière un peu plus, riche que tout simplement de se voir à l'Assemblée Générale. Voilà. Donc ça, c'est un point important. Si vous faites un DTG, soyez très vigilants pour fédérer tous les copropriétaires autour de vous, autour d'un projet commun, et que vos professionnels en tiennent compte. Le DTG, c'est évidemment un état des lieux. Et puis, à mi-parcours, on va faire un débriefing. On va faire un débriefing avec ses professionnels. On va faire un débriefing avec le conseil syndical. Bon, c'est souvent par Zoom parce qu'on essaie de minimiser les déplacements. Et ce débriefing, il va être le rendu, en quelque sorte, de ses professionnels sur ce qu'ils ont vu en matière thermique, énergétique, technique, architecturale, possibilité de construire. On a une copropriété où ils ont des mètres carrés constructibles dans leur jardin. Ils pourraient construire un deuxième petit immeuble. Donc, on leur a effectivement montré. D'usage, de vécu. De vécu, ça peut être aussi de dire, on a des planchers qui sont très sonores, on entend nos voisins. Voilà. C'est quelque chose qui souvent n'apparaît pas, et effectivement, ça peut apparaître dans un DTG. À partir de là, effectivement, il y a un terme d'urgence et de planification, et c'est là où le conseil syndical a un rôle extrêmement riche, puisque c'est lui qui va mettre au point, finalement, sa stratégie, qui va mettre au point son scénario de présentation à l'Assemblée Générale. Donc, il va dire, voilà, on peut faire telle ou telle chose, on pense que ça passera, on pense que ce sera admis par les copropriétaires et on va proposer telle ou telle chose. Donc, il y a une gestion riche de ce diagnostic qui n'est pas simplement un diagnostic qui va dire, voilà, au jour d'aujourd'hui, on est mal classé ou bien classé thermiquement. Ça peut aller beaucoup plus loin et là-dessus, il faut être vigilant pour obtenir, effectivement, de la part des copropriétaires, un consensus. L'idée, effectivement, c'est quand on va passer à l'Assemblée Générale pour présenter ce DTG, il y ait un consensus. Le grand principe du conseil syndical, dans toute démarche, moi j'empiète un peu sur la maîtrise d'œuvre, c'est que ce qu'il va présenter en Assemblée Générale soit validé. Il n'y a rien de pire qu'un projet d'ampleur qui n'est pas validé en Assemblée Générale. Donc l'aspect communication, l'aspect présentation, l'aspect aussi de simplifier les choses, de montrer comment elles peuvent être, est fondamental. À partir de là, effectivement, vous allez pouvoir, ou pas, suivant les travaux que vous allez programmer, à partir de ce DTG, lancer effectivement une consultation de professionnels, ou pas, si vous décidez que les travaux se font dans 2 ans ou dans 3 ans. Alors voilà, on y est. Donc on a décidé, le syndicat a décidé d'aller vers une rénovation énergétique. Alors vous savez que l'État tient beaucoup à ce mot de rénovation énergétique globale, la globalité, c'est-à-dire en fin de compte de faire un package où on va effectivement un petit peu tout mettre ensemble. Et on va voir que c'est plus intéressant que de décaler dans le temps pour cette recherche de professionnel, hein, on va dire. Là aussi, il faut être précis. Il faut que le syndicat dégage un programme précis. Hein. Je dis toujours, les maîtres d'œuvre sont des petits soldats, encore faut-il qu'on ait des ordres précis. Et on a souvent des demandes de prix qui sont relativement vagues. Alors on ne sait pas trop ce qui est demandé, on sait que c'est un ravalement thermique, on sait qu'il y a la ventilation, on ne sait pas si on fait les extérieurs. Donc il y a impératif que le conseil syndical se penche sur son programme. Quel programme ? Alors un programme, c'est 6 lignes, hein. c'est très simple. En plus, c'est quelque chose qui n'a aucune... C'est gratuit, quoi. On le fait, ça prend un peu de temps, mais on en a beaucoup plus de bénéfices. Plus votre programme va être précis, plus les réponses de vos maîtres d'œuvre, ou vos bureaux d'études, vont être précises. Hein. Il n'y a rien de pire qu'une consultation, effectivement, où on a l'impression que chacun a répondu un petit peu dans son coin, hein, sur un programme qui ne semble pas être celui que vous avez demandé. Donc là-dessus, il faut vous faire aider pour établir votre programme, alors soit par un assistant à maître d'ouvrage, soit par votre syndic, pour faire un programme précis. Voilà. Bien évidemment, plus vous mettrez de travaux ensemble, plus vous ferez des économies d'échelle. Hein. On s'aperçoit que décaler des ravalements dans le temps, ça coûte beaucoup plus cher que de les faire tous en même temps, on comprend. Par exemple, le problème des cantonnements, hein, loger les entreprises sur place, eh bien, c'est plusieurs milliers d'euros. Donc évidemment, on comprend que si on le décale dans le temps, eh bien, on aura des dépenses beaucoup plus importantes. Donc ne pas hésiter à grouper les travaux, puisque de toute façon, vous allez être à la recherche de financement. Grouper les travaux, mettre la résidentialisation, pourquoi pas dans une rénovation énergétique. C'est le moment où jamais, je dirais, de se lancer, de faire étudier tout ça. Vous aurez toujours le loisir de le prendre ou pas le prendre. Voilà. Hein. Là encore, ça vous permet de savoir où vous allez de plus en plus précisément. Voilà. Alors, un point qui n'est pas neutre. Alors, c'est plutôt, je dirais, pour les copropriétés des années 70, est-ce qu'on a envie de voir son bien évoluer esthétiquement? On a une copro actuellement qu'on démarre, on leur a dit on va faire le même look que la copro qui est toute neuve juste à côté. Vous savez, avec du zinc en partie haute, etc. Bah, ça leur a fait du bien. C'est-à-dire que pour le même prix, finalement, bah, c'est plus beau qu'avant. Alors voilà. Donc c'est important effectivement de préciser que vous voulez une évolution esthétique de votre bien, de vos bâtiments. Voilà. Alors ça peut aller très loin, on a une copropriété où on a créé des portes-fenêtres. Hein, il y avait des fenêtres partout, et bien on a créé des portes-fenêtres. Ce qui a permis effectivement aux gens, depuis les séjours, d'avoir une vue plus intéressante que celle qu'ils avaient avant. Voilà. C'est le moment où jamais, dans une rénovation énergétique globale, d'améliorer votre bien, hein, et non pas se conformer strictement à la rénovation énergétique. Voilà. Et puis je vais terminer sur la forme pour ces professionnels que vous allez retenir. Finalement, quels outils de communication vont-ils utiliser ? Voilà. On avait au début, il y a 2-3 ans, on était à 5-6 réunions. On en est à 8 maintenant. On fait 8 réunions. Donc c'est lourd, c'est-à-dire qu'on fait une réunion à chaque fois avec le conseil syndical et une réunion avec le syndicat. On ne peut pas laisser le syndicat de côté. Il faut l'emmener avec toutes les phases d'études, qui sont l'esquisse, le projet, l'appel d'offres. Il faut à chaque fois leur présenter des choses. C'est eux qui vont voter, c'est pas le conseil syndical. Quelquefois, j'ai des conseils syndicaux qui pensent que tout va aller très bien et patatras, le vote est négatif à la fin. Donc, il est important d'emmener avec soi tout le syndicat. C'est le syndicat qui vote. Hein. C'est, voilà. Donc, de préparer les réunions qui s'imposent. Alors, en général, c'est Zoom avec le conseil syndical et c'est avec le syndicat. C'est dans une salle, voilà. Hein. C'est souvent sur place. On peut même faire une AG pour décider du programme définitif des travaux, en fonction des estimations qu'on a pu faire. Voilà. Vous allez décider ou pas. Une des dernières copro qu'on a fait, nous avait demandé d'étudier le changement de la chaudière avec le ravalement simple, d'un côté, et de l'autre côté, le changement de la chaudière avec un ravalement énergétique et les aides. Voilà. Donc, on a étudié ça quasiment jusqu'au bout, pour s'apercevoir qu'en matière de financement, refaire complètement la copropriété avec un isolant, avec de la ventilation et une chaudière efficace, ça coûtait effectivement 70 euros de plus par mois pendant 20 ans. Autant vous dire que c'est ce qui a été retenu. Mais c'était pas acquis. C'était pas du tout acquis. On pouvait imaginer que ce soit un ravalement simple qui soit acquis avec le remplacement de la chaudière uniquement. Voilà. Donc c'est important de laisser la porte ouverte si effectivement vous sentez au niveau du syndicat qu'il peut y avoir des oppositions. Il y a toujours des oppositions dans un syndicat. Et pour pouvoir avoir des réponses financières. car de toute façon, ça se termine toujours par des réponses financières. Voilà. Alors, mettre au point un principe de planification, effectivement, c'est bien que le conseil syndical, avec le maître d'œuvre, puisse planifier toutes ces réunions. Il faut savoir quand même qu'entre le choix du maître d'œuvre pour une rénovation globale et le vote des travaux, il s'écoule un an. On n'a pas réussi à faire moins qu'un an. Voilà, c'est long, 12 mois. Voilà. Donc, attention, il faut être vigilant au dérapage, il faut être discipliné. C'est une mécanique qui doit aboutir au résultat espéré. Voilà, c'est un peu un schéma général de ce qu'est le passage du DTG à la maîtrise d'œuvre. Donc vous voyez qu'il y a d'étapes différentes avec des AG. Voilà, il y a un avant-projet sommaire, c'est l'esquisse. Il faut nommer un bureau de contrôle. Il faut recenser des ouvrages privatifs. Vous pouvez faire une décision ou bien effectivement une AG pour voter le programme définitif des travaux. Et puis, bien évidemment, si vous avez décidé de modifier le look de votre résidence, eh bien, faire voter. Alors, on fait des affichages, faire voter une des solutions de ce qui est une des solutions qui va être retenue. Souvent, on affiche ça dans le hall et on fait faire un vote, par sondage. La décision, le programme définitif des travaux, il est toujours assorti évidemment des financements, c'est-à-dire qu'à tous les moments, à toutes les étapes de votre rénovation énergétique globale, vous savez où vous en êtes financièrement. Bien évidemment, plus le projet se précise, je dirais, plus le financement se précise, et lorsque vous arrivez effectivement à l'AG de vote des travaux, chaque copropriétaire, en fonction de sa situation, sait ce qu'il va payer mensuellement par rapport à ce qu'il a choisi. Il peut y avoir des copropriétaires qui payent avec leur cash, et des copropriétaires qui payent sur un emprunt. Bon, je ne vois plus personne payer en cash, pour tout vous dire, quel que soit le lieu en Île-de-France. Voilà. Après, effectivement, ce vote des travaux, eh bien, il y a la mise en œuvre des financements. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler un petit peu de l'ANA, qui est surbookée en ce moment, qui a d'ailleurs fait des embauches par ailleurs, qui a pris des services d'une société célèbre anglo-saxonne, me semble-t-il, pour déboucher un petit peu cet encombrement. Donc au jour d'aujourd'hui, sur un dossier, on est à un an. Et au bout d'un an, on n'a toujours pas le retour des financements, puisque le syndic, lui, ne démarrera les travaux que lorsqu'il aura l'argent en caisse. En principe. Mais en général, c'est ce qui se passe, parce que c'est quand même des travaux importants. Voilà. Alors, je crois que c'est à toi d'intervenir, là. Angela, sur la maîtrise d'œuvre.
Oui, Eric, peut-être que tu voulais parler aussi des menuiseries. Parce que c'est vrai que c'est un problème qu'on rencontre régulièrement et tu avais des expériences.
Alors, merci Angela. Vous savez que la caractéristique énergétique d'un bâtiment se fait sur l'enveloppe. Et dans l'enveloppe, il y a deux choses. Il y a des choses collectives que sont les murs et des choses privatives que sont les fenêtres. Voilà. Donc, on s'aperçoit de la difficulté à effectivement quantifier le classement d'un immeuble. Déjà au départ, puisqu'on a recensé toutes les fenêtres, celles qui ont moins de 10 ans, celles qui ont plus de 10 ans, celles qui sont d'origine, puisque le thermicien, lui, va affecter un coefficient de transmission thermique sur chaque élément de la façade. Voilà. Donc déjà, on a une difficulté qui nous pousse, nous, à faire dès le départ un questionnaire pour demander à tous les copropriétaires, finalement, où ils en sont de leurs fenêtres. Alors, c'est des fenêtres, mais ça peut être aussi des baies vitrées. Hein, voilà. À partir de là, le but, ça va être très rapidement de savoir, pour le résultat thermique que vous escomptez, alors maintenant c'est plus de 35% pour avoir les aides, je crois qu'on a tous compris à ce niveau-là, de savoir finalement quelles fenêtres devront être changées, thermiquement, alors que la commande, elle est privative. Donc c'est à ce moment-là, très rapidement, il faut avoir un engagement des copropriétaires sur un prix moyen, puisqu'on n'a pas fait l'appel d'offres, sur un prix moyen de les fenêtres, en leur disant, ben, faut les changer vos fenêtres. Parce que sinon, on n'aura pas le classement énergétique. Ce qui permet au nombre de fenêtres à changer de réaliser l'appel d'offres, de dire à celui qui va fournir les fenêtres, bah, il y a 150 fenêtres à faire, ou il y en a 300. On comprend bien que le prix n'est pas le même en plus. Voilà. Alors ça, c'est une phase qu'on va, au jour d'aujourd'hui, là, sur les dossiers que nous avons, que nous commençons le plus tôt possible. Parce qu'on s'aperçoit que il y a toujours des copropriétaires qui réalisent pas les choses, ils votent et puis finalement c'est après le vote des travaux, lorsqu'on a lancé toutes les demandes de financement, notamment sur les fenêtres, c'est après le vote des travaux que des copropriétaires décident de remplacer leurs fenêtres. Voilà. Donc, on imagine que ça pose de gros problèmes après au niveau de l'ANA pour, sur un cas particulier, effectivement, modifier quelque chose. Donc, on essaie, c'est pas toujours évident, on a besoin du conseil syndical, on essaie de faire en sorte qu'à l'appel d'offres, on a à peu près bouclé le nombre de fenêtres précises qui vont être commandées. Alors, sur une copro qui avait 200 000 euros d'aide de la région, si elle était BBC, ils ont fait voter le principe que les fenêtres étaient d'intérêt collectif. Parce qu'évidemment, si les gens, au dernier moment, ne changeaient pas leurs fenêtres, on n'avait pas le BBC, on n'avait pas les 200 000 euros. Voilà. On peut effectivement voter, je crois que c'est l'article 24, on peut voter les fenêtres comme étant collectives. Il n'en demeure pas moins que le règlement de la fenêtre, il est privatif. Voilà. Donc attention, et je terminerai par autre chose aussi, c'est tout ce qui s'est construit dans le temps, alors avec ou sans autorisation, les verrières, les fermetures de loggias, etc., nous posent de réels problèmes. Et c'est quelque chose que maintenant on aborde tout de suite pour savoir si ces surfaces gagnées ont été régularisées dans les millièmes. En général, elles ne l'ont pas été. Si elles ont été achetées à l'achat d'appartements, en général, le notaire les a vendues, ces surfaces. Quand il s'agit d'une loggia fermée, il a vendu la surface. Alors on ne sait pas trop si elle est chauffée, si elle n'est pas chauffée. On ne sait pas si, dans la rénovation énergétique de l'immeuble, on va rénover ou pas cette verrière. Hein, en général, le copropriétaire dit « Moi, quand j'ai acheté, j'avais déjà la verrière, c'est pas à moi de la mettre à niveau. » Et le copropriétaire dit « C'est votre verrière, mettez-la à niveau. » Donc, attention, tous ces ouvrages qui ont été construits dans le temps, un petit peu illégalement, parce que la bonne franquette, hein, dans les années où tout se passait pas grand-chose, eh bien, on les retrouve à un moment donné et on doit les résoudre. Alors, je parle même pas du problème de la sécurité incendie par le feu qui se transmet d'une fenêtre à l'autre. On va pas rentrer dans les détails, mais ça nous pose aussi des problèmes au niveau sécurité incendie, tous ces ouvrages qui ont été construits dans le temps. Voilà. Donc, attention, il faut que le maître d'œuvre, il faut que le conseil syndical sur les ouvrants, les fenêtres, fasse un gros travail dès le départ de pédagogie et de recensement.
Merci, Eric. Alors, disons qu'un instant que je prends pour passer les diapos. Disons que les étapes pour la rénovation énergétique, comme les DTG, la maîtrise d'œuvre, ont déjà été traitées, mais je vais les reprendre parce que c'est des sujets très vastes. Et donc chacun il peut mettre en avant des points qui, dans son vécu professionnel, sont relevantes. Donc, pour ce qui concerne les DTG, nous avons fait partie d'un groupe de travail qui a mis à point un document référentiel, qui c'est le référentiel DTG de l'Agence parisienne du climat. Et donc, ces documents permet déjà, disons, de gérer et de présenter au conseil syndical, si c'est de la part du syndic ou l'envers, cette initiative de façon très complète et aussi de, disons, éviter toutes les problématiques de diagnostic partiel qu'on a vécu avant la mise à point de ces référentiels. Et donc, si vous allez par exemple à la page 9, c'est un document, un téléchargement libre sur les sites de l'Agence parisienne du climat. Et vous voyez qu'il y a des étapes socles, donc la base, et des étapes optionnelles. Nous ne pouvons pas, dans cette conférence, rentrer dans les détails de toutes les étapes, mais je pourrais citer deux points d'attention. Les premiers points, je dirais, la récolte des documents qui servent comme base pour l'étude. Il y aura une liste que les syndics diffusent au conseil syndical et qui, ensemble, va être, disons, complétée. Et il y a souvent des manques dans ces documents qui font que les DTG n'est pas complet ou que quand même il y a des éléments d'imprécision. Par exemple, je pense au plan, parce que beaucoup de copropriétés n'ont pas d'études de plan. Et donc, l'importance de les rechercher en amont, parce que normalement, ça dépend de l'ancienneté du bâtiment, ça dépend des mairies, mais même il y a des archives au niveau des mairies. Donc c'est rare que les copropriétés et copropriétés soient au courant, mais c'est intéressant de pouvoir faire cette demande et donc d'avoir un maximum d'informations pour les fournir aux professionnels. Un autre point d'attention pour les DTG est le sujet des photos avec la caméra thermique. C'est une obligation et cela, ça peut être fait uniquement en période d'échauffe, donc les mois d'hiver. Et ça fait que souvent, quand on ne tient pas compte de ça, par rapport à la date de l'AG, par rapport au moment dans lequel on missionne les professionnels, et ça peut faire perdre une année. Parce que il y a les votes en AG, et puisque maintenant, il y a aussi un financement à la hauteur de 5 000 euros qui s'appelle chèque audit pour les DTG, il y a un délai supplémentaire après l'AG à attendre pour avoir l'accord sous ce financement du chèque audit, et ça fait que les moments dans lesquels les professionnels est missionné et donc pour venir sur la copropriété pour faire la visite, c'est très important de les maîtriser, parce que si par exemple la mission est donnée les mois de mars et la visite est faite les mois de mai, pour avoir les photos avec la thermographie, il faut attendre la période d'échauffe. Donc il faut attendre novembre ou décembre pour finaliser les DTG. Donc voilà, j'ai tenté de souligner ces deux points. Voilà, donc pour ce qui concerne la présentation de la phase suivante, donc on a fait un audit de la copropriété. On souhaite maintenant passer à la consultation des entreprises, à la phase qu'on appelle maîtrise d'œuvre et de conception. Ça passe par les, disons, une discussion et une décision collective sur les scénarios des travaux mis en avant. Les scénarios des travaux sont décrits, ils sont plusieurs, disons, à la fin de la diagnostic technique globale. À la fin du DTG, il y a les scénarios des travaux. Mais ce qui est très important, et c'est certainement un point d'attention, c'est le fait qu'avant l'AG, il doit y avoir une réunion intermédiaire, il doit y avoir une concertation entre les conseils syndicaux et les professionnels pour mettre en avant un bouquet des travaux. Comme disait Eric, ça passe parfois par des réunions des concertations, parce que pour expliquer les raisons pour lesquelles on choisit cet scénario, cet ensemble de travaux, plutôt qu'un autre. Ça peut être lié à la pourcentage d'économie d'énergie, ça peut être lié à d'autres besoins d'urgence, mais tout ça, si il passe pas l'information au niveau de tous les copropriétaires, au moment de l'AG, c'est un élément de blocage. Donc certainement, c'est un point à travailler avant. De façon que quand on arrive en AG, quelque part, tout est déjà établi. Alors, la phase de maîtrise d'œuvre, ça se vote en AG. En général, on présente une offre au moment de la présentation du DTG. C'est-à-dire, on a un scénario de travaux, donc c'est un cahier des charges. Les professionnels, ils font une offre pour la maîtrise d'œuvre, et cela, ça se divise en plusieurs étapes. Nous avons choisi de présenter les étapes les plus importantes. Parmi ces étapes, il y a certainement la déclaration préalable, et c'est les dossiers qu'on présente auprès de la mairie. Souvent implique des modifications de la cahier des charges établi. Parce que si l'on sait les bâtiments est dans les périmètres des architectes des bâtiments de France ou pas, si aussi ça dépend du type de façade de bâtiment, ça peut par exemple empêcher de faire une isolation thermique par l'extérieur. Ça c'est récurrente, mais ça ne signifie pas que soit disons que rien peut être amélioré dans la copropriété, parce que souvent on a la possibilité d'isoler les façades arrière ou les pignons ou quand même de faire des interventions de rénovation énergétique. Dans ces cas-là, d'une copropriété dans les 14e, on a pu constater que ce qui nous semblait un blocage de l'architecte des bâtiments de France, qui nous imposait l'enduit avec un pigment minéral, et donc une plus-value des coûts d'environ 5 000 euros, on a vu qu'après la fin du chantier, au moment, disons, qui était posé, il y avait la totalité des copropriétaires qui, ils ont apprécié ces produits, ils ont, disons, compris que parfois les impositions même s'ils viennent des architectes des bâtiments de France et tout ça, peuvent être aussi source d'un résultat positif. Alors, notre phase très très importante, c'est la consultation des entreprises. On a un dossier qui est formé par un cahier des charges, donc des documents Word, des descriptifs techniques détaillés. Et ce qui est très important, c'est les décomptes et prix global forfaitaire. C'est un fichier Excel dans lequel on décrit toutes les prestations de façon de pouvoir permettre le chiffrage sur colonne par colonne des différentes entreprises et comparer les prix et voir donc rapidement s'il y a une entreprise qui a pour cette prestation un prix trop élevé ou pas assez élevé et donc d'être très disons d'avoir une vision claire. Et nous, ce type de documents, on le diffuse au conseil syndical. Donc c'est un travail des professionnels, mais c'est un travail partagé sur lequel on fait une réunion de Zoom quand on reçoit tous les devis et on peut discuter ensemble. Les pièces graphiques sont importantes aussi. C'est pas les mêmes pièces de la déclaration préalable parce qu'il y a des maîtres. Donc un autre point important de toutes les consultations, c'est d'avoir des quantités avant de consulter les entreprises, déjà dans les descriptifs du maître d'œuvre, parce que ces quantités ont la possibilité de faire des prix unitaires et donc de maîtriser les coûts dans les cas, par exemple, de des modifications en cours de chantier ou autre. Voilà, notre spécificité de la rénovation énergétique est la présence de l'AMO. L'AMO, c'est, disons, la structure qui accompagne les copropriétés pour, disons, tout ce qui sont les demandes d'aide et financement. Donc, ils se basent leurs demandes sur les devis qu'on peut obtenir dans la phase de consultation des entreprises. Disons qu'il faut tenir compte, parce qu'on parlait du délai avec Eric, l'importance du délai global, il faut tenir compte que toutes ces demandes de financement ont des longs délais et il faut chercher de les connaître au début, avant, disons, quand on lance le processus et d'en discuter avec eux. Disons qu'il y a encore une partie de la maîtrise d'œuvre qui permet de faire les choix finaux de l'entreprise et c'est les tableaux comparatifs des offres, donc la présence de tous les prix dans un unique outil de travail. C'est les rapports d'analyse des offres. Ça, c'est les professionnels qui font un descriptif dans lequel ils précisent lot par lot quelle est l'entreprise conseillée et pourquoi. C'est-à-dire, il y a une transparence pour justifier les choix. Parfois, ça peut être économique uniquement, mais parfois, disons, il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Donc, nous, normalement, on fait une réunion Zoom et déjà, on discute avec les conseils syndicaux, avec les syndics, des motivations pour lesquelles nous sommes orientés vers un ou l'autre entreprise. Et puis, à ces moments-là, on fait un rapport écrit pour qu'une trace reste. Et on a, à ce point-là, la possibilité de mettre au vote les devis des entreprises. Donc, c'est très important que ce travail, ça se fait en amont de l'AG, parce que c'est pas le jour de l'AG qu'on peut mettre au vote plusieurs devis pour la même prestation. Donc, c'est un choix, c'est une analyse que ça s'est fait, ça se travaille avant. Voilà, je pense que on peut laisser un moment pour les questions éventuelles sur les sujets que nous avons traités. Et puis, voilà.
Je vais... Allô, allô. Je vais revenir. On termine effectivement sur l'implication du conseil syndical, qui est vraiment fondamentale. Hein? Réunion Zoom, visite sur place, réunion d'information. Au jour d'aujourd'hui, on a énormément de demandes de DTG, donc je crois que le DTG est rentré dans les mœurs, puisqu'effectivement, grâce au DTG, on va pouvoir faire son plan pluriannuel de travaux 2025. Hein, puisque le DTG se termine par des scénarios, eh bien on va décider que ces scénarios, on va les étaler dans le temps et faire un PPT. Il faut savoir que le DTG, effectivement, alors au jour d'aujourd'hui, on n'arrive pas à les démarrer, il fait trop chaud. Alors on espère que le réchauffement climatique ne va pas continuer, parce que sinon on va jamais pouvoir commencer nos DTG. Voilà. Hein. Donc il faut savoir qu'un DTG, donc on le commence en novembre-décembre, et globalement on le rend à l'AG de juin. Voilà, ça vous donne un petit peu le timing, effectivement, d'un diagnostic. À l'AG de juin, alors il y a deux techniques. Hein. Soit on présente le DTG au syndicat, soit on le diffuse avant et on fait une présentation très rapide et il y a des questions. Mais le syndicat, je n'ai jamais vu le syndicat voter un plan de travaux ou un scénario de travaux à la présentation du DTG. Je l'ai jamais vu encore. Parce que les gens ont besoin, je dirais, d'en parler, ils ont besoin de dialoguer, ils ont besoin de savoir, ils ont besoin de connaître. Donc souvent, le syndic propose une assemblée générale extraordinaire, 2-3 mois plus tard, en septembre, pour voter le plan de travaux et dire si on prend ou pas un maître d'œuvre. D'accord? D'accord. Donc on dessine un scénario de travaux en septembre-octobre par une AG extraordinaire ou plus tard. Et puis on va demander effectivement des professionnels de répondre et on va voter ces professionnels à l'AG de juin. Donc un an. Hein? Donc la maîtrise du temps est quand même fondamentale, il faut savoir où on va. Hein? Donc un an entre la présentation du DTG et le démarrage des études. Voilà. Ensuite il faut compter un an entre le démarrage des études et la présentation des devis. Et ensuite il faut recompter un an pour avoir le retour des financements.
Eric,
voilà. Donc vous comptez, hein, c'est entre 3 et 5 ans. C'est pour ça que, comme je dis souvent, les copros me disent on n'est pas pressé, ben ça tombe bien parce que ça va être long. Voilà. Simplement, ne perdez pas de temps parce que ça sera encore plus long. On a un exemple d'une copro, ça fait 6 ans qu'on a démarré et on n'a pas encore 6 ans qu'on a démarré les études et on n'a pas encore démarré le chantier. Voilà.
Merci Eric. En effet, il y a des cas quand même. J'ai pu vivre des cas où la même AG de la présentation de DTG, on avait travaillé en amont, comme on disait, sur les réunions et sur l'information, et la mission de maîtrise d'œuvre est partie à même AG. Pourquoi? Parce que on avait beaucoup travaillé, disons, les objectifs. Et puis parce que c'est frais dans l'esprit des gens, l'analyse qu'on a fait, donc les DTG et les visites qu'on a fait sur place, donc les liens qui se sont créés quand on a visité les appartements et tout ça, ça s'est créé une dynamique que parfois, si vous êtes disons, à mesure de la mettre en œuvre dans votre copropriété, ça peut faire gagner du temps.
Oui, Angela, tu as tout à fait raison. Il faut savoir qu'on a fait un certain nombre de DTG il y a quelques années. Un DTG qui a un an, il est mort. On est d'accord. Hein? Il est classé quelque part, on a fait le travail pour rien. Attention. Hein? C'est vraiment un outil vivant qui est fait pour pousser les copropriétaires à avoir une réflexion sur leurs biens. Comme d'ailleurs, ils ont, si on a un petit peu d'argent placé en banque ou en action, à chaque fin d'année, on a un bilan. Effectivement, de ce qu'a donné le rendement de nos actions, et on nous propose effectivement peut-être de le placer différemment. Je vois pas pourquoi on le ferait pas pour un immeuble qui est d'une valeur souvent largement supérieure à l'argent qu'on peut avoir de placer quelque part. Voilà, on va laisser la parole aux questions peut-être.
Pour établir un DTG, il faut déjà que les personnes se déplacent à la copropriété et d'accord, et visite les appartements ou non, pas encore.
Oui. Alors non, effectivement, d'abord, il y a les demandes des devis, puis il y a la mise au vote du devis, disons, plus intéressante. Ensuite, il y a la demande de financement de 5 000 euros pour chaque audit. Donc, les professionnels, quand vous faites la demande de 5 000 euros, ne sont pas encore missionnés. Leur contrat n'est pas signé. Donc, vous attendez 4-6 semaines pour avoir l'accord pour le financement. Après, il est possible de signer leur, disons, leur contrat. Et seulement à ce point-là, vous organisez les jours de la visite sur place, donc les appartements à visiter, et les syndics aura la liste des documents à produire. Oui, oui. Il se déplace pas pour les devis, normalement. Non. Les devis, vous pouvez, disons, faire confiance, parce que nous, on vous demande par une fiche de renseignements standard. On vous demande les éléments fondamentaux pour pouvoir chiffrer pour votre copropriété. Est-ce que le chauffage est collectif, individuel, combien de l'eau, tous ces éléments-là. Donc ça se base sur la fiche de la copropriété.
Ils ont fait un devis DTG dans une assemblée générale extraordinaire. Mais on s'est trouvé qu'il ne valait rien parce que il y a une étude de chauffage collectif alors que nous sommes en chauffage individuel.
Non, il y a souvent des professionnels qui sont aussi dans des listes comme Coach Copro et tout ça, donc ils ont l'habitude de faire attention à ces éléments. Il y a dans les devis, ils sont ensemble. Il y a l'architecte, il y a les thermiciens, il y a l'ingénierie financière. Donc forcément, je pense que là, c'est un cas de pas de chance, mais si vous prenez les professionnels, disons, habilités, et vous leur fournissez la fiche, c'est comme ça que normalement, ça marche et ça fonctionne.
Oui. J'aurais voulu connaître l'engagement d'un copropriétaire dont la copropriété commence un DTG et sur combien à quel moment il est engagé. S'il veut vendre son appartement entre-temps, pendant ces 5 ans, qu'est-ce qu'il advient en quoi il s'est engagé sur ce DTG et ses travaux? Bah, c'est-à-dire que quand il y a des travaux qui sont engagés, même s'il s'en va, il vend, il paye ses travaux.
La personne a dit qu'il ne paiera que si les travaux sont votés.
Vous m'entendez là?
Oui,
alors vous m'entendez. Oui, non, le DTG n'engage pas les copropriétaires. Hein. C'est un polaroid du bâtiment. Je ne vois pas, on peut tout à fait vendre, on peut tout à fait acheter lorsqu'il y a un DTG en cours. Alors, en ce qui concerne les travaux, ça c'est, je connais pas les règles précisément. Il aurait fallu demander avant, là, à l'amphi d'avant. Effectivement, je ne connais pas les règles au niveau de l'engagement des travaux lorsqu'on vend. Vous avez le micro, je crois.
Allez-y. J'en profite. Vous avez dit qu'un DTG, ça avait une validité d'un an. Et en même temps, vous nous faites un planning de 2, 3 ans à 5 ans pour faire des travaux, s'il y a besoin de travaux.
Alors,
comment on garde une validité de DTG qui coûte quand même dans les 8 000 euros, avec sans qu'il y ait une perte financière, parce que c'est important, quoi.
C'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est vrai que le DTG ne doit pas être un polaroïde. Il faudrait le faire évoluer dans le temps, bien évidemment, au fur et à mesure qu'on fait des travaux. D'autant plus que dans un DTG, vous avez des parties fixes hein, qui n'évolueront pas, hein, comme la montée des eaux ou les crues dans le centre de Paris ou le bruit. Donc il y a un certain nombre de choses fixes qui n'évoluent pas. Mais effectivement, lorsqu'on fait des travaux, le DTG évolue. Au jour d'aujourd'hui, on est en train de regarder comment faire évoluer ce DTG. Les syndics aussi devraient être partie prenante là-dessus, effectivement, pour que... Alors, il y a eu à un moment donné le carnet d'entretien, le carnet de travaux, on a parlé de beaucoup de choses, je ne sais pas où c'en est, mais c'est sûr que ça serait sans doute le DTG qui serait le plus à même à pouvoir être accessible par tous les copropriétaires, bien entendu en le faisant évoluer. Parce que dans un DTG, vous allez voter des scénarios de travaux, voilà, qui vous donnent un résultat thermique ou pas. Après, à vous de dire comment vous allez étaler ces travaux dans le temps. En général, c'est sur 10 ans, voilà. Sachant que les scénarios de travaux, il y a les scénarios, il y a les travaux urgents et il y a les travaux non urgents. Hein, dans les scénarios de travaux, bien évidemment. Hein. Voilà. Bon, les travaux urgents, on sait qu'il faut les faire rapidement. Maintenant, on peut décider de faire sa rénovation énergétique dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Et ça, c'est effectivement, ça ouvre la porte au PPT, au plan pluriannuel de travaux. Vous décidez tous, finalement, quand est-ce que vous allez faire ces travaux. Ou construire un abri poubelle, ou construire que sais-je. Hein. Il y a plein de choses qu'on peut étaler dans le temps sur 10 ans. Voilà. Et effectivement, au fur et à mesure que ces choses sont faites, on devrait logiquement purger le plan de travaux. Je suis d'accord avec vous. Mais l'outil ne le permet pas au jour d'aujourd'hui, puisqu'il est formaté, il faut savoir qu'il est formaté par l'Agence parisienne du climat, pour que vous ayez l'aide de 5 000 euros.
J'avais une autre question quand même. Aujourd'hui, donc, vous avez accès effectivement à la présentation sur le DTG. C'était au départ un document qui n'était pas obligatoire pour tous, puisque c'était pour les mises en copropriété. Donc vous l'avez un petit peu généralisé et vous avez essentiellement présenté cette présentation est très intéressante sur la rénovation plutôt globale. Mmh. Et il y a quelque chose du coup qui me choque, c'est qu'on parle de plan pluriannuel de travaux. Mmh. Et quand on parle de plan pluriannuel de travaux, ça veut dire qu'on va donc étaler les travaux dans le temps. Et quand on parle qu'il faut atteindre 35% d'économie d'énergie pour avoir un maximum d'aide, on se demande comment on peut faire un plan pluriannuel de travaux. Donc je pense là aujourd'hui qu'il y a quelque chose quand même qui n'est pas très logique dans la définition du plan pluriannuel. D'autre part, vous avez, avant que vous me répondiez, j'avais un autre point. Donc vous avez évoqué l'obligation de faire un passage de caméra thermique, d'où le fait que vous êtes obligé d'intervenir l'hiver. On se rend compte, quand on a une bonne connaissance, et je pense aux architectes, je pense aux bureaux d'études, quand on a une bonne connaissance du bâti, on sait très bien que la caméra thermique ne va pas nous apprendre des choses miraculeuses.
Mais d'accord, c'est une obligation.
Alors, c'est une obligation, mais ce qui du coup freine énormément de projets, parce que on se retrouve étalé dans le temps d'une manière totalement différente, avec des dates d'AG qui ne correspondent pas forcément à la réalisation du DTG. D'où là une perte de temps à nouveau.
D'accord. Donc, je réponds à la première question, d'abord. Disons que quand on a des scénarios, des travaux, disons, les DTG est un peu les socles, d'accord, sous lesquels les PPT peuvent prendre les relais. Mais les scénarios du DTG, et notamment celui à plus de 35% d'économie d'énergie, sont mis au vote. Ça, c'est la première démarche à faire. Ça arrive dans certaines copropriétés que, malgré les besoins, les jours de l'AG, les travaux ne sont pas votés. Donc, dans ce cadre spécifique, donc c'est pas possible de faire la rénovation énergétique comme ça serait plus logique de faire, il y a les PPT qui prennent les relais pour éviter que tout soit paralysé. Et donc, même si on ne fait pas les votes des travaux pour tout de suite, on verra que dans les prochains 5 ans, il faut quand même refaire la toiture. Et ça amène des coûts supplémentaires. Mais c'est un choix, encore une fois, de la copropriété.
Oui. Alors, j'ajouterais simplement que l'histoire de faire le DTG en hiver, vous avez raison, la caméra thermique, ça n'est qu'un instrument pédagogique. On est d'accord. Mais le thermicien, il a besoin de prendre des températures dans la chaufferie, si possible, en fonctionnement. Il a besoin de prendre des températures extérieures et des températures intérieures. Donc ça peut être qu'avec une différence importante de température entre l'extérieur et l'intérieur. Voilà, c'est une obligation. Sinon, il fait mal son boulot.
Oui, alors.
Et tous les financements sont liés. Les financements sont liés au respect de ces points-là. Si on demande l'échec audit et on n'a pas de photos avec la caméra thermique, les 5 000 euros ne seront pas donnés.
Oui, alors je voulais intervenir sur le rôle de l'AMO, assistance à maîtrise d'ouvrage, et je voulais rappeler le rôle essentiel de l'architecte de l'immeuble, parce que quand on consulte les règlements copropriété, il est toujours dit, dans les conditions particulières, sur l'utilisation des parties privatives ou communes, que l'on doit faire appel à l'architecte de l'immeuble. Or, souvent, il n'y a pas d'architecte à l'immeuble. Donc, je pense qu'il serait important, dans un travail préalable, qu'on ait vraiment un architecte de l'immeuble qui ait déjà une approche technique, parce que le syndic n'a pas toujours une approche globale, et que chacun des copropriétaires connaisse aussi bien son lot, et qu'on ait des documents qui soient fiables, c'est-à-dire des règlements de copropriété qui soient mis à jour, ou qui soient refondus, comme depuis plusieurs années, inciter la loi, depuis la loi SRU, plus maintenant nouvelles dispositions, donc la refonte des règlements de propriété, parce qu'effectivement, Monsieur Vernat tout à l'heure l'évoquait, c'est-à-dire on a des parties communes qui ont été annexées, on a des verrières qui ont été créées, mais tout ça s'est fait par décision d'Assemblée Générale qui n'ont pas été publiées, donc qui ne sont pas opposables et qui posent des problèmes lors de la transmission. Alors j'ai une grande expérience là-dessus, j'ai géré des immeubles anciens et je peux vous dire que les problèmes de cave, les problèmes de parties communes, d'annexion de couloirs, de combles, c'est quelque chose qui revient, qui est difficile à régler. Donc je pense qu'il serait essentiel que les copropriétaires s'impliquent dans la connaissance de leur immeuble, qu'on exige qu'il y ait des plans qui soient publiés et accessibles sur l'extranet, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, parce que le livre des assemblées générales, qui est le carnet de santé de l'immeuble et le carnet d'entretien, ne sont pas mis à jour, y compris les fiches d'immeuble. J'ai eu l'occasion d'aller sur fichier immatriculation. Des syndics n'ont pas le temps aujourd'hui de les compléter. Donc, essentiel que les copropriétaires se prennent en main et qu'ils ne se plaignent pas tout le temps de dire « le syndic est mauvais ». Je crois qu'on a un syndic qui est mauvais si on ne sait pas le dynamiser. On a aussi le rôle du conseil syndical, mais je ne vais pas parler de la précédente conférence.
Oui, je vais rebondir. Vous m'entendez ? Je vais rebondir ce que vous dites. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il n'y a plus d'histoire des immeubles. Hein, les syndics changent régulièrement, les conseils syndicaux changent régulièrement. Il n'y a plus d'architecte d'immeuble, donc il n'y a plus d'histoire. Il n'y a plus d'historique de l'immeuble, alors que les immeubles, pour beaucoup, arrive à des états de dégradation importants. Voilà. Effectivement, je rebondis aussi sur ce que vous dites. Le travail du syndic s'est énormément complexifié. On ne peut pas lui demander en plus de s'y connaître, à mon avis, hein, c'est mon avis, mais qui n'engage que moi, de savoir comment fonctionne l'immeuble, qu'est-ce qu'il lui faudrait, quel est son état, etc. Il faut que ce soit réellement le conseil syndical qui prenne en charge le fonctionnement de l'immeuble et son état. Il y vit, donc il le connaît bien mieux qu'un syndic qui est extérieur. Alors effectivement, il y a les systèmes de syndic bénévole ou syndic coopératif. Et puis effectivement, l'idéal, ce serait qu'il y ait un cahier, un carnet avec tous les plans, toutes les décisions que les présidents du conseil syndicaux se passent d'élection en élection. Ça, c'est l'idéal. Effectivement, quand on arrive dans une copropriété, en général, nous, on n'a jamais de plan. Et je dis toujours, nous sommes des mécaniciens qui réparons une voiture sans avoir le plan du moteur. Eh bien, ce n'est pas facile.
Alors, juste pour terminer, moi, je ne veux pas monopoliser la parole, mais dans quelle la nouvelle gouvernance, l'Assemblée générale peut déléguer au Conseil syndical une mission jusqu'à 2 ans, article 21.1 à 21.5 de l'ordonnance de 2019, qui est venue modifier la loi 65. Donc, à tous de se tenir informés.
Oui, je voudrais juste faire un complément de réponse concernant les DTG. Parce que les DTG, dans le référentiel qui a été élaboré par l'Agence parisienne du climat, il y a un chapitre sur les règlements des copropriétés, les clés de répartition. Et donc, nous, professionnels, quand on suit cette, disons, référence, quand on va sur place et on repère les incohérences entre les règlements des copropriétés et la réalité. Après, on n'est pas dans la phase DTG dans la mesure de donner la réponse, mais on signale toutes les incohérences qui doivent être régularisées.
Est-ce qu'il y a encore des questions?
Oui, excusez-moi, j'ai loupé le début de votre colloque, donc du coup, je vais peut-être poser une question qui a déjà été dite, désolée. Je voulais savoir, là, on parle beaucoup du DTG et énergétique, mais avec une pression du gouvernement, de l'État, et c'est normal, parce que voilà, ça fait 20 ans, 40 ans qu'on en parle, donc maintenant on est acculé. Et le problème, c'est que je voudrais savoir, dans les DTG énergétiques, quelles sont véritablement les obligations des copropriétés, sur quel horizon. Parce que là, on nous parle effectivement sur le même salon de vraiment de l'énergie en tout premier lieu, en priorité. Mais derrière, il y a un besoin de plan financier pour les copropriétés. Parce que tous les copropriétaires, je pense, ne sont pas des marchands de biens. Donc, est-ce que vous pourriez, si ça n'a pas été fait, me donner une information sur cette obligation véritablement du DTG.
Alors, je dois bien saisir votre demande, c'est-à-dire vous voulez savoir si, disons, suite à la rédaction, au vote d'un DTG, il y a des obligations de faire des travaux ou pas.
Mais même en amont, c'est-à-dire que là, par exemple, vous nous parlez d'un DTG énergétique parce qu'il y a une aide de 5000 euros qui est possible si on atteint les 35% d'économie suite au devis suite à la rédaction du DTG, je suppose. Enfin,
oui.
Parce que
c'est donné après.
DTG, il faut que, alors, c'est... pour avoir les 5000 euros, il faut qu'un DTG
respecte certains critères.
Respecte certains trucs et fasse émerger que on va faire 35% d'économie sur la copropriété.
Il y a d'autres aides aussi.
Avec les pluriannuels. Mais actuellement, quelles sont les obligations d'une copropriété? Parce que le DTG global n'est pas véritablement obligatoire.
Non, c'est ça. C'est des démarches pour chercher, disons, de convaincre la copropriété à avancer dans ce sens. Mais il n'y a pas des obligations, disons, de forcer. Il y a, par exemple, la démarche selon laquelle on ne peut pas louer les passoires thermiques à partir de telle date. Donc, effectivement, il y a des démarches qui cherchent de convaincre sans obliger les copropriétaires à avancer dans le sens de la rénovation énergétique.
Bien, on va aller vers la fin parce qu'il faut qu'on libère la salle. Voilà. Effectivement, il n'y a pas d'obligation de faire un DTG, il y a l'obligation de faire un PPT. C'est-à-dire en 2025, il faudra faire un plan pluriannuel de travaux qui sera assorti d'un diagnostic de performance énergétique. Voilà. Donc ça, ce sera obligatoire. Voilà. Alors ce sera moins riche, hein. Il n'y aura pas les questionnaires, il n'y aura pas tout ce qui entoure un DTG, qui a une richesse aussi d'interlocuteurs, de procédures. Bon, ce sera quelque chose de beaucoup plus sec et de beaucoup plus strict. Voilà. Donc l'obligation, elle est là en 2025. Alors que d'un DTG, vous pouvez effectivement passer au PPT, et d'un DTG, vous avez l'aspect financier. C'est-à-dire qu'un DTG vous indique effectivement quelles sont les aides que vous pouvez avoir sur certains scénarios, ce que vous n'aurez pas dans le PPT. D'accord ? On va peut-être arrêter là, il est 12h28. Hein ? Merci à vous tous de votre écoute. J'espère que ce sera été profitable pour vous. Et puis, à l'année prochaine. Merci.